18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée.
La bronca européenne contre la sécession du foot business après l'annonce de la création d'une super ligue européenne de foot en concurrence directe avec la Ligue des Champions.
Oui, c'est un séisme, on vous expliquera tout et les implications de cette annonce qualifiée par le patron de l'UEFA de crachat au visage de tous les amoureux du foot.
Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui défend sa stratégie sécuritaire en visite à Montpellier.
Des nouvelles également d'Alexei Navalny, l'opposant russe dont la vie était en danger, a finalement été hospitalisé sous la pression internationale.
Didier François nous expliquera lui que Huawei est de nouveau accusé d'espionnage. Cette fois aux Pays-Bas, il aurait eu accès aux données de millions de clients de téléphones portables.
Et puis une première dans l'histoire spatiale, en attendant Thomas Pesquet, jeudi, la planète rouge survolée par un petit hélicoptère.
La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,15% à 6296 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages, ils reviennent demain.
Oui, le soleil sera souvent contrarié demain avec des averses aussi fréquentes sur la moitié nord. Mais, car il y a toujours un mais en météo, vous le savez, bonne nouvelle. Côté température, la douceur reste d'actualité demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc un cataclysme qui secoue le monde du sport. 12 des plus grands clubs de foot européens qui décident de faire bande à part et d'imposer leurs propres règles.
Oui, ils lancent entre eux, en somme, une nouvelle compétition, la Super League. Parmi ces clubs, il y a notamment le FC Barcelone, Chelsea, le Real Madrid ou encore Liverpool. Autant dire des pointures.
Alors vous allez nous expliquer en détail de quoi il s'agit dans un instant, Simon Rubin. Mais d'abord, preuve que le sujet est explosif et dépasse même le monde du sport. Les politiques s'en mêlent, Emmanuel Macron notamment, qui salue la position des clubs français qui, eux, ont refusé de participer à un projet qui, dit Emmanuel Macron, menace le principe de solidarité et le mérite sportif.
Oui, ça n'est pas tout. Coup de gueule également de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sachant que 6 des 12 clubs impliqués dans ce projet sont anglais.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans ni pour le football anglais. Ces grands clubs ont une histoire liée à des territoires, à des villes, à des communautés locales et ça doit continuer ainsi. Voilà pourquoi je n'aime pas ce projet de Super League et nous allons réfléchir à ce qu'on peut faire.
Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
On entend Boris Johnson manifestement outré par cette initiative. Alors expliquez-nous Simon, ces clubs prestigieux qui se regroupent entre eux, quel est leur intérêt?
Eh bien c'est évidemment l'argent avec cette Super League, pas de place pour les petits. On ne garde que les clubs les plus connus pour n'avoir que des matchs prestigieux et donc des recettes en hausse. La Super League table sur 3,5 milliards d'euros de revenus à répartir entre les 20 participants. Chaque club gagnerait à peu près 4 fois plus que ce que touche le vainqueur de l'actuelle Ligue des Champions.
Et alors, en quoi ça pose problème, cette compétition concurrente, justement, de la Ligue des Champions?
C'est l'idée de l'universalité du foot qui est battue en brèche. Ce ne serait plus, à proprement parler, une compétition européenne, mais avec seulement 3, 4, voire 5 nations représentées. Cela reviendrait à créer, en fait, un autre football, un foot pour les riches, pour les clubs puissants, sans possibilité pour les petits clubs méritants d'avoir leur chance.
Et est-ce que leur démarche a des chances d'aboutir?
Oui. Alors, on a un précédent, c'est le basket, qui a fait exactement la même chose. Les grands clubs ont réussi à créer leur propre ligue. Ceci dit, pour le foot, on a entendu Boris Johnson. Les oppositions, vous le disiez, elles sont nombreuses. Supporters politiques, clubs qui soutiennent cette vieille Ligue des Champions, le PSG et le Bayern de Munich en tête. Le patron de l'UEFA, on en a parlé, évoque un crachat au visage des fans de foot. Plus important sans doute, un grand diffuseur britannique, la chaîne BT Sport, annonce qu'elle s'oppose à ce projet. On sait que la diffusion télé, c'est le nerf de la guerre. Alors attention, faut pas être naïf, si les clubs puissants lancent cette Super League, c'est en sachant très bien qu'ils vont perdre des fans, que les supporters purs et durs vont s'y opposer, mais en sachant aussi qu'ils pourraient gagner d'autres spectateurs plus jeunes qui ne s'intéressent qu'aux grosses équipes, qui sont fans des clubs, non pas à cause de leur histoire, mais parce qu'il y a des grandes stars qui y jouent. Cette Super League, en fait, elle cadre très bien avec ce foot mondialisé qui cherche à capter un public plus jeune, bien au-delà des frontières de l'Europe.
Merci beaucoup Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Alors les supporters, justement, qui ont découvert avec stupeur cette annonce, autant dire que leur idée ne leur plaît pas du tout, comme en témoigne Ronan Evin, il est directeur de l'association des supporters européens.
Le rejet, il est massif. La crainte pour la majorité des supporters, c'est une distorsion complète de la concurrence, que ces 20 clubs, 15 ou 20 clubs, accaparent l'immense majorité des revenus du foot européen, accaparent l'immense majorité des joueurs, et au final, que nos championnats deviennent des championnats de seconde zone et que leur viabilité financière soit mise en danger. Parce que les promoteurs de cette Super League nous vendent un football plus ouvert, etc. Mais ce qu'ils nous proposent, c'est exactement l'inverse. C'est la concentration du football européen, de l'élite du football européen, dans les mains de quelques clubs, de quelques pays. On a aujourd'hui 3 pays, on en aura peut-être 5, 6, tous situés en Europe de l'Ouest. Et donc, c'est la fin de la diversité du foot européen.
Le directeur de l'Association des supporters européens, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou.
Emmanuel Macron sur le terrain sécuritaire après son interview au Figaro ce matin. Visite à Montpellier aujourd'hui dans des quartiers dits sensibles.
Le chef de l'État qui promet que le gouvernement est en train de passer à la vitesse supérieure en harcelant les trafiquants et les dealers, qui ferment la porte aussi à la légalisation du cannabis, et puis qui promet de maintenir son objectif de 10 000 policiers supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.
Oui, ce matin il était auprès donc des forces de police et cet après-midi le chef de l'État s'est rendu sur un ancien point de deal dans un quartier sensible, Hélène Terzian.
Oui, le président veut là aussi illustrer concrètement ce qu'il a déclaré ce matin dans le Figaro et ce qu'il a répété aujourd'hui. Tout le monde a le droit à une vie paisible. Alors, une fois arrivé dans ce quartier théâtre, il y a encore un mois d'une opération de démantèlement d'un point de deal, il s'est offert un bain de foule dans une atmosphère bon enfant.
Ouais, monsieur.
Ça va, les jeunes ?
On ne veut pas qu'ils traînent dans la rue.
L'efficacité d'une politique pour démanteler justement des points de deal. Et puis, il y a un partenariat là. On est en train de construire avec la ville qui est très efficace. Mais on met des moyens et on a des résultats.
Le président a ensuite pris du temps pour échanger, notamment avec une mère de famille qui reconnaît une présence accrue de la police pour mieux protéger les jeunes contre le trafic de drogue.
Là, récemment, on a eu un incident, oui, qui est allé jusque dans l'école. Les familles sont extrêmement rassurées de voir la police régulièrement aux abords de l'école.
Il faut que vous sachiez que c'est un travail commun, hein, entre les services de l'État, les services institutionnels, mairie de Montpellier.
Un déplacement du président qui s'achève avec une visite à la CAF pour montrer le travail des associations locales qui favorisent le lien police-population. Le président accueilli toutefois par les huées de centaines de manifestants criant « Macron démission ».
Hélène Terzian à Montpellier sur Europe 1 et à l'instant le réquisitoire dans le procès de la BAC Nord de Marseille, jusqu'à 6 mois de prison ferme requis contre les 18 policiers.
Alors vous le savez, c'est l'événement ce soir sur Europe 1, une heure d'entretien entre Michel Denisot et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe à la mairie du Havre. Entretien qui sera diffusé en intégralité entre 18h30 et 19h30, suivi d'un débrief avec les grandes voix. L'ancien Premier ministre qui se confie notamment sur sa relation avec Emmanuel Macron et son départ de Matignon.
Vous racontez dans votre livre la façon dont vous avez quitté le gouvernement après 3 ans, 1 mois et 18 jours, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on peut considérer que l'amour dure 3 ans et que le 1 mois et 18 jours a peut-être été un peu trop quand on lit tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là entre vous et le président de la République, où vous n'aviez pas forcément le même point de vue ?
D'abord, le fondement de la relation entre un Premier ministre et un président, ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour. C'est une relation de confiance et de travail. Et de bon travail, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Mais enfin, on a fait beaucoup de choses aussi et j'en suis aussi assez fier. Ensuite, il y a une prérogative qui est une prérogative absolue du président de la République, et qui est le signe de sa prééminence au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change.
Oui, vous pourrez donc retrouver l'intégralité de cet entretien exceptionnel dans quelques minutes avec Michel Denisot à partir de 18h30.
Mia a retrouvé sa grand-mère. La petite fille de 8 ans avait été enlevée, vous le savez, la semaine dernière dans les Vosges et retrouvée saine et sauve hier en Suisse. Des nouvelles d'Alexeï Navalny, l'opposant russe qui était en grève de la faim depuis 3 semaines et dont la vie était en danger. Il a été transféré dans l'hôpital du camp dans lequel il est emprisonné.
Oui, une hospitalisation qui ne suffit pas à calmer les inquiétudes des Occidentaux, Damien Mestre.
Oui, l'Union européenne continue de mettre la pression sur le Kremlin. Les ministres des Affaires étrangères étaient justement réunis aujourd'hui pour évoquer le cas d'Alexeï Navalny. Ils demandent à ce que l'opposant russe ait un accès immédiat à des médecins, mais que ces médecins soient des personnes en qui il a confiance. Il faut dire que déjà des voix s'élèvent en Russie. Elles mettent en doute la sincérité de cette hospitalisation. Les alliés de l'opposant qui rappellent qu'Alexeï Navalny serait toujours, vous l'avez dit, entre la vie et la mort. Mais du côté du pouvoir russe, on balaye ces critiques. L'état de santé de l'opposant est jugé satisfaisant. Il a même reçu un traitement à base de vitamines, indique-t-on. Mais surtout, le porte-parole du Kremlin s'en est pris ce midi directement aux pays occidentaux qui réclamaient une hospitalisation. Il indique, je cite, « Nous ne pouvons pas accepter de telles déclarations de la part de représentants d'autres gouvernements. »
Merci Damien Mestre. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide prévisible des Tutsis au Rwanda. C'est ce que dit un nouveau rapport, un rapport américain, cette fois commandé par Kigali, qui estime par ailleurs que la France savait qu'un génocide se préparait, mais a continué à porter un soutien indéfectible au régime du président Hutu.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h11, la suite du journal. On vous parle donc de ces nouvelles accusations d'espionnage qui touchent le géant chinois des télécoms, Huawei, suspecté d'avoir écouté des heures de conversations téléphoniques aux Pays-Bas.
Oui, c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé au moment du déploiement de la 5G en France. Et ce n'est pas la première fois que Huawei est sur la sellette. Sauf que là, il vient de se faire prendre la main dans le sac. Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce sont des accusations évidemment extrêmement graves.
Ah bah oui, parce que figurez-vous qu'au nombre des lignes compromises se trouvait celle de l'ex-premier ministre et de tous les membres de son gouvernement, ce qui fait beaucoup jaser aux Pays-Bas, puisque selon le quotidien qui lève le lièvre, leur communication aurait pu être enregistrée grâce à un serveur fourni par Huawei à l'opérateur hollandais de téléphonie mobile qui s'appelle KPN, mais auquel 6 techniciens chinois avaient accès pour des raisons de maintenance. C'est en tout cas ce que révèle le rapport commandé par les services néerlandais de contre-espionnage dès 2010, qui vient de fuiter, et dont les conclusions sont absolument dévastatrices pour le géant des communications, qui traîne déjà quelques sérieuses casseroles, créées par un ingénieur de l'armée populaire de libération, très lié au régime communiste. Huawei était déjà suspecté de servir de cheval de Troie aux organes de renseignement de Pékin, et bien que l'entreprise s'en défende, un de ses cadres avait été arrêté et expulsé pour espionnage en Pologne en 2019 parce qu'il avait infiltré le réseau locage d'Orange, ce coup-là, au profit des services chinois. Il faut dire qu'une loi votée en 2017 fait obligation à tout citoyen et à toute entreprise de collaborer avec les structures sécuritaires chinoises et de taire cette collaboration sous peine d'emprisonnement.
Oui, alors ça ne va pas faire les affaires des pays, 170 pays pour lesquels Huawei a déployé du matériel de haute technologie comme la 5G, ça ne va pas rassurer les opinions publiques.
Alors effectivement, c'est le problème que pose ce rapport néerlandais, puisqu'on voit bien que les autorités chinoises peuvent se servir de la technologie Huawei pour se frayer un accès jusqu'aux informations politiques, économiques et même militaires les plus sensibles, car dès lors que leurs techniciens auraient la main sur le matériel de communication d'un pays, alors les téléphones, les antennes relais, les répartiteurs ou les serveurs, eh bien ils auraient en fait accès au cœur de son système de décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont interdit à leurs administrations et à leurs fonctionnaires d'utiliser des équipements Huawei. Et à l'heure où l'Europe doit s'équiper pour l'Internet à très haut débit, il n'est pas totalement inutile de s'interroger sur des règles strictes à édicter avant d'autoriser une compagnie comme Huawei à concourir comme fournisseur de matériel aux grands opérateurs européens.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans Europe Soir.
On a entendu des cris de joie à la mi-journée au centre de contrôle de la NASA. Il faut dire que c'est une première dans l'histoire, un événement, un premier vol en hélicoptère sur la planète Mars grâce à Ingenuity, qui ressemble d'ailleurs davantage à un drone qu'à un hélicoptère. C'est en tout cas la première fois, donc, lors d'Autriche, qu'un engin motorisé vole sur une autre planète que la Terre.
Oui, exactement. L'hélicoptère a volé pendant 40 secondes à 3 mètres de hauteur. Une courte vidéo prise par le robot au sol montre l'engin en train de faire du surplace puis de se poser à la surface de Mars. L'hélicoptère a lui-même envoyé une photo en noir et blanc montrant son ombre sur la planète rouge. Les Américains voulaient montrer qu'il est possible de voler à la surface de Mars. Alors c'était un défi parce que l'air martien est 100 fois moins dense que sur Terre et c'est en faisant tourner les pales de l'hélicoptère extrêmement vite que l'engin a pu se soulever. D'un point de vue scientifique, cela pourrait être utile à l'avenir, explique Gabriel Pont, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Après, on peut imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol, par exemple, mais à des endroits très éloignés par rapport aux endroits qui nous sont accessibles avec les rovers aujourd'hui.
Dans les prochains jours, d'autres vols de cet hélicoptère auront lieu, en particulier jusqu'à 5 mètres de hauteur, probablement. La NASA veut faire d'autres tentatives en augmentant la difficulté pour voir, d'une certaine façon, jusqu'où il est possible d'aller techniquement.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.
C'était le journal d'Isabelle Millet, qu'on retrouve à 10h. 19h pour le rappel de l'info. Un coup d'œil à la météo avec Anissa Dadi. C'est un ciel plus couvert qui nous attend demain partout en France, Anissa.
Oui, et dès le début de la journée, hein, Julien, même si le temps reste sec, le soleil bien présent, il sera souvent, ce soleil, voilé et masqué par de nombreux nuages. C'est dans le sud-est, en fait, que le ciel sera le plus dégagé. Attention au nord de la Loire, hein, sur les Hauts-de-France, la Bourgogne, le Grand Est, la Basse-Normandie, le Val-de-Saône, là, nous aurons pas mal de brouillards matinaux. Dans l'après-midi, les nuages vont se multiplier avec des averses assez fréquentes, notamment sur la moitié nord du pays. Côté thermomètre, la tendance est à la douceur. Vous l'avez senti, j'imagine, déjà aujourd'hui. Eh bien, demain, ça continue. Encore quelques petites gelées, moins 1 à Manosque et au Puy-en-Velay, 2 à Besançon, 4 à Lyon et Lille, 7 degrés déjà demain matin à Paris et 9 à Tarbes. Et puis, dans l'après-midi, toujours de la douceur, 12 à Boulogne-sur-Mer, 14 à Cherbourg, 16 degrés à Nice, 18 à Bordeaux, Strasbourg et Paris, et 21 la maximale pour Avignon.
Merci Anissa, merci pour ce point météo.
Europe 1, écoutez le monde changer.